Chers amis, bonjour. Cours numéro 86 sur les lois de la médisance. Alors, si, imaginez, un homme a une information, alors qu'il y a déjà une rencontre déjà depuis un petit moment entre un garçon et une fille, et il a une information négative sur l'une des deux parties. Alors, évidemment, il porte sur lui la responsabilité de transmettre cette information. La mitzvah qui est écrite dans la Torah, dans le chapitre 19 dans Vayikra, qui dit « Lo tamod al amrecha », tu n'as pas le droit de te mettre sur le sang de ton prochain, à savoir que la Torah elle nous oblige à transmettre une information qui peut être évidemment obligatoire dans le sens où l'une des deux parties a un problème, par exemple, physique. Il l'a découvert que finalement, la fille ou le garçon a un problème, par exemple, génétique qui peut entraîner des malformations vis-à-vis du bébé. Ou alors, elle a un problème ou il a un problème au niveau psychique. Et elle vient de découvrir des papiers qui montrent comme quoi il a subi ou elle a subi des séances chez un psychologue ou chez un psychiatre, etc. Voire même, parfois, on peut aller jusqu'à le problème de tsniout, même de pudeur, etc., chez une fille, qu'en fait, elle a caché ceci, sa pudeur, qu'en fait, elle n'est pas tellement pudique, etc., etc. En tout cas, ce sont des choses qui peuvent entraîner dans le futur couple, évidemment, le divorce. Alors, pour pouvoir, évidemment, transmettre ce message-là, il existe, évidemment, des conditions. Alors, la première condition s'agit selon laquelle l'information que l'on doit, ou en tout cas que l'on veut transmettre, ne vient que ce qu'on appelle du Kelly Rishon, c'est-à-dire de l'arbre. C'est lui-même qui connaît, qui a vu ce problème-là. À savoir que si ça a été transmis par une tierce personne, alors il faut que la tierce personne il soit exact. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis allé au labo et on m'a transmis les feuilles. Donc, c'est d'une tierce personne, mais c'est une personne qui est fiable, puisque, en l'occurrence, ici, c'est d'un laboratoire, etc., etc. Donc, évidemment, il faut que ce soit d'une première personne. Et si c'est d'une tierce personne, alors il faut que ça soit vérifié. Autre chose, dans le cas où, imaginez, il y a un problème dans lequel il y a, on va dire comme ça, quelque chose d'objectif. Par exemple, une infirmité qui va empêcher l'une des deux parties, le garçon ou la fille, de pouvoir par la suite, par exemple, avoir des enfants ou je ne sais pas quoi, ou par exemple, on sait que chez la famille, il y a une maladie qui peut être transmissible. Etc., comme on l'a dit au début, évidemment, et on est persuadé que ça, c'est quelque chose qui va évidemment entraîner le couple à malheureusement à subir peut-être des dommages. Alors, encore une fois, il faut être sûr, d'accord, que la personne ne va pas. Qu'elle va cacher ça, et donc dans ce cas-là, je suis obligé de le déclarer. La troisième condition, c'est que, évidemment, dans la mesure du possible, il vaut mieux parler avec l'une des deux parties dont le problème se présente et de lui dire, écoute, regarde, moi, je risque de le dévoiler si toi, tu n'en parles pas à l'autre partie. Si la personne ne veut pas en parler, alors évidemment, j'aurai le droit de dévoiler le problème. Quatrième condition, lorsque l'on va transmettre cette information-là, évidemment, on n'a pas le droit de rajouter, d'accord? Si elle a, par exemple, un problème, il y a eu un problème de surdité ou malheureusement, de quelque chose qui peut être transmissible au niveau de génétique, on ne va pas dire oui, et en plus, elle ne comprend rien, etc., etc. On ne va pas rajouter, évidemment, sur le problème qui se présente. Cinquième condition, évidemment, l'intention de celui qui va raconter ça, c'est pour empêcher un dommage qui risquerait d'apparaître, d'accord? Et non pas parce que il lui semble correct, il lui semble comme ça que c'est quelque chose qui risque de gêner, et donc il veut faire un peu de être plus royaliste que le roi, et donc de dire, je préfère quand même dire, si ce n'est pas quelque chose qui risque d'entraîner, évidemment, comme on a dit, des problèmes majeurs. Sixième condition, si il n'y a aucune possibilité de faire autrement que de le dire, de le dévoiler, alors évidemment, dans ce cas-là, je serai obligé de le dévoiler. Dernière condition, évidemment, si je dévoile cette information-là, il ne faut pas que dans une des parties, il y ait une vengeance. Par exemple, imaginez que la rencontre se soit déjà on soit déjà après le fiançailles et que on ait déjà une date de mariage et que si jamais on dit ça, ça va être un bouleversement et que l'autre partie risque de se venger et de faire des choses. Alors en général, il vaut mieux ne pas se mêler et laisser les choses se faire. Nous arrivons au niveau de la morale, rappelez-vous, le fait de la mitzvah, finalement, de se taire. Alors, regardez bien comme exemple cette chose-là. Imaginez qu'une personne soit muette et qu'un médecin extraordinaire ait réussi, par des procédés médicaux, de la rendre, que cette personne puisse, Baruch HaShem, parler. Alors, imaginez que cette personne, qui après des années et des années est vécu dans le silence, puisse enfin se mettre à parler, combien elle va remercier le médecin et combien elle va évidemment faire attention à ses paroles et combien elle n'aura jamais une notion de venir contre le médecin, d'avoir des paroles négatives sur le médecin. Alors, il faut bien comprendre ici, c'est que c'est la même chose au niveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est que il nous a permis, il nous a donné le mérite d'être ce qu'on appelle l'être pensant, l'être parlant, dans le sens où on a la capacité de communiquer. C'est un keli, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous permet, par rapport aux animaux, de évidemment de s'élever au-dessus de l'animal, au-dessus du niveau de l'animal. Alors, pour simplement cette raison-là, évidemment, combien on doit remercier Kadosh Baruch Hu pour ce cadeau-là? De l'autre côté, on sait très bien la gravité de la faute de celui qui va malheureusement se permettre de parler de choses négatives et chazachom, voire même contre Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, imaginez que quelqu'un il se permet de parler comme ça, Akadosh Baruch Hu, en principe, Alpiadine, selon la loi Trix, ne pourrait pas continuer. Le lendemain, il se réveille et Hachem lui donne encore la possibilité de se réveiller, de côté une journée, une deuxième journée, et toute une vie, alors qu'il faute sans arrêt. Évidemment, c'est un chesed. Et simplement pour ça, on doit avoir reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne, et la possibilité tous les jours de se lever, de dire, je peux maintenant peut-être faire tshuva. N'oubliez pas ce que nous ont dit les Chachamim. Ma'umanoto shel Adam, quel est le métier de l'homme dans ce monde-ci? Qu'il se fasse muet. À savoir encore une fois, que ça veut dire quoi? Qu'il se rappelle finalement toujours que malheureusement à cause de la quantité de fautes qu'il peut faire, Akadosh Baruch Hu, selon le din, aurait dû le faire disparaître et par son chesed, par sa bonté, il continue de le laisser sur cette terre. Alors évidemment, rien que pour ça, nous avons l'obligation de faire très attention à notre parole, comme on dit. Avant de parler, on doit tourner la langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit. À bientôt.
Ribono shel olam, yei ratzon mi lefanecha el rachum chanun, shetizakenu hayom bechol yom, lishmor piv ulshonenu, milshon hara urechilut venizaer mi ledaber afilu al ish yechidi, v'chol sheken al klal Yisrael o al chelek mihem, v'chol sheken nitra'em al midotav shel HaKadosh Baruch Hu. ונזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאה, דברים, הלבנת פנים, ליצנות וכל דיבורים אסורים. וזכנו שלא לדבר כאם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמים. ובזכות קבלת שמירת הלשון, נסלק את כל הפורנויות ומחלות קשות והמגפה הנוראה. אמן.